Bonjour. Voilà, on est bien sur vous êtes bien sur J'enrage, votre émission féministe lilloise. On est le 99 FM RCV. On est le 13 juillet aujourd'hui à 16h toujours et aujourd'hui, on est avec Claire Finch. Bonsoir Claire.
Bonjour. Oui,
salut.
Bonjour. Donc Anaëlle n'est pas là aujourd'hui avec nous. Donc on est trois dans le studio avec Zab et Claire nous vient tout droit de Paris, à la fois Paris et les États-Unis à vrai dire. Elle est étudiante en genre, en master genre à Paris 8 comme Nora il y a 15 jours qui était là avec nous. Et donc Claire travaille en gros sur donc tu es étudiante en master, on peut dire tu termines le master de genre à Paris 8, c'est ça? Et donc tu travailles sur la réception de la théorie queer en France.
Oui, exactement. Et donc plus spécifiquement, ce que j'ai fait, c'est l'histoire de la circulation de la théorie queer entre un contexte anglophone et un contexte français francophone. Et donc, on voit dans beaucoup des livres queer français, par exemple Le Test Junkie de Béatrice Preciado, Les Queer Zones de Marie-Hélène Boursier, qu'il y a plein de références des penseurs anglophones qui ont eux-mêmes pris des références françaises. Donc, c'est comme un pensée français qui a digéré un pensée anglophone qui était elle-même d'une certaine pensée française. Donc, on voit une circulation entre les deux pays. Et c'est ça qui fait le sujet de mon recherche.
D'accord. Et mais alors, du coup, est-ce que déjà, tu penses qu'on peut parler d'un mouvement queer en France? Et quand est-ce que on peut identifier les débuts du queer en France? Est-ce qu'il y a une année? Est-ce qu'on peut le dater? Est-ce qu'il s'est passé certains événements particuliers? Est-ce qu'il y a une histoire queer, une histoire de la pensée queer, des queers français? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
Ça fait beaucoup de questions peut-être.
Ouais, c'est plein de questions en une.
Comme d'hab.
Non, ça va. Bah, bien sûr, il y a un queer en France. Mais oui, mais ce qu'on peut dire des mouvements qui ont commencé à s'appeler queer et surtout la théorie queer, ça commence avec le Zoo. C'est une association militante queer qui a commencé à faire des séminaires Q au milieu des années 90 en France. C'était des séminaires de micro-traduction des livres queer et du genre des traductions de l'américain ou de l'anglais vers le français.
notamment la traduction de quelle penseuse, quel penseur, à ton avis, ou militante?
Donc là, c'était vraiment la traduction des livres de Judith Butler, par exemple, son Gender Trouble, qui est en français maintenant Le Trouble dans le Genre, mais qui était traduit de manière officielle très tard.
Ouais. 2004 ou 2006?
Oui, 2006, 2005 peut-être. Ouais. En France même, qui ça apparaît au début des années 90 aux États-Unis, et ça c'est vraiment la fondation de la pensée queer dans le contexte anglophone. Et maintenant, on voit ça aussi dans le contexte français. Beaucoup de personnes, de penseurs queer, revendiquent de la pensée qu'a fait Judith Butler par rapport à l'objet du genre.
Et donc, parmi les instigatrices, justement, et les instigateurs de ce collectif, ou de ce, on peut dire le collectif Zoo ou association?
Association.
L'association Zoo. Il y avait donc notamment deux théoriciennes sur lesquelles tu travailles, qui sont également militantes, qui sont Béatrice Preciado et Marie-Hélène Boursier, oui. Avec Queer Zone, tome 1, 2, 3.
Oui, 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 exactement. Et en fait, c'est comme ça que je suis venue à Paris pour faire cette recherche particulière. C'est que avant, j'étais aux États-Unis, à New York, et j'ai travaillé dans une presse féministe qui s'appelle The Feminist Press. Et c'est eux, notamment, qui ont fait la traduction de The King Kong Theory, King Kong Theory de Virginie Despentes. Mais aussi, à l'époque, ils étaient en train de traduire Le Test Junkie, un livre de Béatrice Preciado. Et donc, à l'époque, je lisais pas super bien le français, mais quelqu'un m'avait dit que ça peut m'intéresser. C'était pas encore traduit. Donc, en fait, j'ai volé le livre de mon patron. C'était dans son bureau. Je me suis fait entrer par clé. J'ai volé le livre. Et je l'avais feuilleté. Et ça m'avait juste trop impressionnée. Ça changeait comment je regardais le genre, le queer en général. Et donc, j'ai un petit peu suivi ce livre jusqu'à Paris, où je fais les études maintenant. Et j'ai vu que dans ce livre, il y a plein d'influences que j'ai vues dans ma formation dans les études féminines. On s'appelle ça Women's Studies plutôt aux États-Unis. Et donc, c'était là que j'ai commencé à voir cette histoire de circulation. Et je me suis intéressée vraiment à la question de comment ces travaux français, notamment de Tessa Bianchi, de Preciado, c'était quoi le contexte d'un tel travail? Comment est-ce que on est arrivé à ce moment-là?
Donc, en fait, en tant que terroriste voleuse de comment est-ce qu'elle se nomme Preciado dans son livre? Elle fait du terrorisme de genre, mais je ne sais plus également exactement, du pirate, voilà.
Oui.
Donc, en tant que pirate de Tessa Bianchi, tu as quelle était ma question exactement à la base? Oui, on peut peut-être résumer rapidement le bouquin. Après, on va venir plus précisément au sujet de ce dont on va parler aujourd'hui. Enfin, parce que on va être un peu moins général.
On n'a pas annoncé le programme en fait.
Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas annoncé, mais on va voir. Comme ça laisse un petit suspense. C'est de ma faute, mais à coup le pas. J'aurais dû le faire. Donc voilà, en fait, on est donc Tessa Bianchi. On l'a présenté une fois avec Zab il y a quelques mois, rapidement. Et donc, en fait, comment tu résumerais ça rapidement le bouquin, parce qu'on va en parler tout à l'heure.
Ouais. Donc c'est l'histoire de Beatrice Preciado qui, donc c'est un livre de auto-théorie. C'est-à-dire, c'est la théorie sur son propre corps. C'est un travail qui est à la fois poétique, fiction, théorie. Donc, Preciado a pris la testostérone pendant une période de plus de 300 jours. Et elle raconte l'expérience de cette prise de testostérone dans le livre. Et un des concepts principaux que Preciado élabore, c'est l'idée qu'on est maintenant dans une ère pharmacopornographique. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que personnes, en tant que sujets, en tant que corps, sont construits de des différents flux. Donc, à la fois de textes, de médias, de pornographie, mais aussi de manière très réelle, des hormones, des drogues, de toutes les choses qu'on ingère, qu'on digère. Et donc, oui, c'est une théorie qui parle de comment est-ce qu'on peut refaire ou faire mutater une subjectivité ou des genres.
C'est très bien résumé, je pense. C'est très bien résumé. Et du coup, en fait, un des enjeux de ta recherche que tu as d'ailleurs présenté dans une journée d'études qui a eu lieu à Paris 8, qui s'appelait Queer en transformation, à laquelle je participais aussi d'ailleurs. Et tu as présenté ce...
Autopromotion ?
Non, mais c'est juste pour pas faire comme si, tu vois, on se connaissait pas ou je sais pas quoi. Oh, ça aurait fait peut-être plus professionnel, je sais pas. Mais donc, cette journée d'études, tu as présenté en fait un texte qui proposait une queerisation, on peut dire, de la différence sexuelle. Donc peut-être que tu peux nous... Zab, oui. Peut-être où es-tu?
Peut-être que vous pouvez indiquer, parce que ces textes ont été mis en ligne sur une page en, internet, non?
Oui, c'est un Tumblr.
Ouais. Peut-être que vous pouvez...
Ça s'appelle queer en transformation chez Tumblr.
Ouais, c'est ça. Queer en transformation en un seul bloc, je crois. Donc queer en transformation tout attaché. Point Tumblr, point quelque chose.
Et oui. Du coup, sur cette page, vous retrouvez tous les textes.
Oui, toutes les interventions qui étaient données ce jour-là. Exactement. Ouais. Donc parce que ma recherche parle de cette question de la circulation des textes, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines je veux dire territoires qui sont formés en France entre une théorie queer et les théories féministes. C'est-à-dire qu'il y avait de nombreuses personnes qui m'avaient dit que soit le queer n'est pas féministe, soit le féminisme n'est pas queer. Donc je me suis intéressée à pourquoi ces territoires se construisent et où. Et donc un des blocs au centre d'un de ces territoires, c'est le féminisme essentialiste. Donc, le féminisme n'est pas queer parce qu'elle est essentialiste, du certain féminisme. Donc, je me suis allée vers là pour interroger qu'est-ce que c'est ce truc qui est l'essentialisme. Et je voulais le faire d'une façon queer. Donc, en fait, j'ai commencé à lire des travaux de Helen Csikszentmihalyi, notamment, qui était pour moi un des penseuses qui était le plus centrale dans cette question de qu'est-ce que le féminisme français essentialiste. Donc, je suis commencée par là et je me suis retrouvée là-dedans plein de choses qui m'avaient étonnée, surtout des théories qui va très bien dans une direction queer, des théories qui parlent de comment est-ce qu'on peut faire mutater les genres, comment est-ce qu'on peut éclater une subjectivité normative, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut échapper de toutes ces règles de normes.
Peut-être qu'on peut revenir sur les termes essentialistes et queer rapidement sans en donner forcément une définition ultra précise.
Oui, d'accord. Donc, queer, pour moi, ça veut dire...
C'est le mot le plus compliqué.
Oui, peut-être que si. Bon, donc c'est plusieurs choses, bien sûr. Il n'y a jamais qu'un queer. Mais première chose, c'est une réclamation d'un mot péjoratif en anglais, dans une origine anglophone en tout cas. Donc, oui, c'était un mot péjoratif pour dire gay. C'est aussi maintenant de... La définition que j'aime le plus, c'est une pensée des marges. Donc, ça veut dire une pensée de la non-normativité ou de comment combattre l'hétéronormativité, c'est-à-dire des tendances normatives dans l'hétérosexualité ou dans la société. Donc, c'est aussi sur un non-binarisme. En gros, on essaie de déconstruire les binaires comme femme, hétéro, homo, dedans, dehors, etc.
Exploser les frontières. Quoi.
Exactement, exploser les frontières. Donc c'est un mot qui surtout dans le sens de théorie, qui est en général un mot très fort avec un sens de pouvoir. Donc queer, donc de mettre queer dans la théorie, c'est-à-dire aussi exploser les disciplines un petit peu. Donc c'est une interdisciplinarité. Les études queer.
Il y a aussi, je pense, je n'arrive pas à parler. Cette idée de pas rester dans un académisme traditionnel.
Oui, exactement. Oui, exactement. Donc, on tire de toutes les influences. On parle.
Au niveau de l'approche.
Oui, exactement, exactement. Donc, au niveau de l'approche, c'est toutes les approches. Aussi, c'est sur les sujets qui sont. Dans la théorie classique, dans l'académie, dans l'université classique, les sujets qui sont effacés ou de qui on ne parle pas. Donc, de façon très classique, dans la théorie queer, c'est les sujets qui sont hors le binaire gay-lesbienne, donc les personnes avec des sexualités non normatives qui tombent hors cette binaire-là ou hors ces identités qu'on a dans LGBT. Mais ça peut être aussi des personnes avec des pratiques non normatives. En gros, c'est de ça.
Oui, et puis le queer tend aussi pas mal à inclure l'enjeu race.
Oui.
Aussi et post-colonial comme quelque chose de qui est toujours là, déjà là. Enfin, à penser à la fois. Ouais, bref.
Oui.
Mais plus que en fait ce qu'on pourrait entendre par gay en fait.
Oui, exactement. Donc en fait ça c'est un des grandes racines de la théorie queer du coup dans le contexte anglophone qu'on voit beaucoup aussi dans le contexte français. Il y avait une théoricienne italienne de la base mais qui a créé le terme théorie queer aux États-Unis au début des années 90 mais vraiment pour introduire le fait que la race et les sexualités non normatives n'étaient pas incluses dans les études gays et lesbiennes à l'époque, exactement.
Voilà, et peut-être revenir maintenant sur essentialisme.
Ah oui, donc essentialisme, c'est...
Et puis on écoutera une petite chanson après.
Ouais.
Une petite...
Parfait. Oui, essentialisme, c'est en gros des théories qui essentialisent le corps, c'est-à-dire qui le réduit à une essence, et une essence qui est, dans le cas du féminisme, essentialisme, femme. Donc c'est-à-dire que des personnes ont... des femmes ont une essence dans elles qui est féminine et que c'est quelque chose du naturel, de biologique qui a déjà existé, qui existe hors le corps en fait.
Parfait, très bien.
Parfait, ouais.
Très bien défini. On va vous mettre une petite chanson, on reviendra juste après, on parlera de... Enfin, on abordera...
On rentrera dans le sujet, voilà, et on aura même un... Claire aura une lecture performance.
Voilà, donc tout de suite on vous met Light Asylum, tu m'as dit que ça se disait.
Oui, Light Asylum.
Voilà, c'est ça. une chanson qui s'appelle Pop Will Roll, d'un album qui est sorti en 2012. Le groupe vient de Brooklyn, donc aux États-Unis, et s'est formé en 2010. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour toujours sur RCV 99FM. Vous êtes sur Genre Rage, je suis avec Suzanne et Claire. J'espère que ça vous a plu, cette petite pause musicale. Tout de suite, avant de les écouter performer le texte qu'a écrit Claire. Du coup, ce que essayer de faire Claire, c'est pour ça qu'on a essayé de définir un peu les termes de essentialisme et queer, c'est de croiser ces deux mouvements, ces deux a priori sont plutôt étanches et plutôt, en tout cas, qui entrent en contradiction. C'est difficile de pas entrer en contradiction en essayant de les conjuguer. Je sais plus parler.
Oui, en gros, pourquoi le queer a intérêt de ne pas être essentialiste? C'est parce que l'essentialisme, cette idée de penser que le corps a une essence qui attache à un genre, c'est-à-dire que des sexes et des genres sont naturels, sont des faits biologiques. Et donc, bien sûr, c'est dans une démarche queer d'essayer de couper ce lien entre un sexe anatomique pensé comme binaire, entre un genre qui ne peut pas associer à cette idée de sexe et encore aux pratiques sexuelles qui peut être liée ou pas à le genre. Donc, c'est dans les de féminisme essentialiste, il y a également des qui lient le genre féminin, la féminité, à un corps qui est biologiquement celle d'une femme comprise dans un système binaire, oui, où c'est la féminité, c'est naturel. Donc, bien sûr, c'est dans l'intérêt du queer de couper avec cette idée là. Mais ce que je me suis trouvé, c'est pas vraiment qu'il y a un approchement entre l'isme et le queer a priori, mais plutôt que les personnes qu'on a dit, ou les penseuses plutôt, qu'on a dit sont essentialistes, dans le cas français, ne sont pas exactement, ou dans le cas de Hélène Cixous, celle que je vais parler de elle aujourd'hui, il y a des choses dans son travail qui n'entre pas dans ce qu'on pense d'être essentialiste et qui peut nous donner des pistes en fait pour comment est-ce qu'on peut penser le corps, comment est-ce qu'on peut penser l'imbrication du corps, des textes, des sociétés dans la théorie queer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit intérêt de le faire.
D'accord. Et donc en fait, ce que tu as tenté comme travail, si... pour expliquer rapidement avant de commencer la lecture, c'est une sorte de collage entre des extraits de Testo Junkie de Béatrice Preciado et des extraits du Rire de la Méduse d'Hélène Cixous, publié en 1975.
Oui.
Si je me trompe pas, c'était l'objet d'une commande pour la revue Signe, je crois, il me semble. Mais bon, en tout cas, voilà, pour contextualiser rapidement, du coup, on va plus. Donc je lirai la partie Cixous, tu liras la partie Preciado. Et go.
Oui.
En 1962, je commençais à écrire et à espérer qu'on allait se pencher sur le corps mutilé de Méduse et lui rendre ses langues vivantes.
Au début de ce livre, je me suis administré la testostérone au lieu de commenter Hegel, Heidegger, Simone de Beauvoir ou Butler. Je voulais me décapiter, trancher ma tête façonnée par un programme de genre, disséquer une partie du modèle moléculaire qui m'habite.
Enfin, j'en eus assez de ces décapitations.
Je ne veux pas du genre féminin qui m'a été assigné à la naissance. Je ne veux pas non plus du genre masculin que la médecine transsexuelle me promet et que l'État finira par m'accorder si je me comporte comme il faut.
J'en eus assez.
Je n'en veux pas.
En s'écrivant, la femme fera retour à ce corps qu'on lui a plus que confisqué, dont on a fait l'inquiétant étranger dans sa place, le malade ou le mort, et qui si souvent est le mauvais compagnon, cause et lieu des inhibitions.
Comme corps, et c'est le seul intérêt d'être sujet-corps, d'être un système techno-vivant, je suis la plateforme qui rend possible la matérialisation de l'imagination politique.
Justement, l'écriture est la possibilité même du changement, l'espace d'où peut s'élancer une pensée subversive, le mouvement avant-coureur d'une transformation des sociales et culturelles.
Je ne m'administre pas seulement l'hormone, la molécule, mais bien le concept d'hormone, une série de signes, de textes et de discours, le processus à travers lequel l'hormone en est venue à être synthétisée, la séquence technique par laquelle elle s'est matérialisée en laboratoire.
Elle prévoit que sa libération fera plus que modifier les rapports de force ou envoyer la balle dans l'autre camp. Elle entraînera une mutation des relations humaines, de la pensée, de toutes les pratiques.
Je deviens ainsi l'un des connecteurs somatiques via lesquels circulent le pouvoir, le désir, la liberté, la soumission, le capital, les débris et la rébellion.
monde de recherche, d'élaboration d'un savoir, à partir d'une expérimentation systématique des fonctionnements du corps, d'une interrogation précise et passionnée de son érogénéité.
Il s'agit d'un protocole d'intoxication volontaire à base de testostérone synthétique concernant le corps et les effets de BP.
Un mélange fantasmatique d'hommes, de mâles, de messieurs, de monarques, princes, orphelins, fleurs, mères, saints, gravite autour d'un merveilleux soleil d'énergie, l'amour, qui bombarde et désintègre ses éphémères singularités amoureuses pour qu'elles se recomposent en d'autres corps pour de nouvelles passions.
Chacune de ces lignes de vie aurait pu avancer dans une direction différente, mais elles ont convergé vers nous et se sont croisées ici, exactement, sous sa peau, sous la mienne.
Moi aussi, je me suis sentie tant de fois pleine à exploser de torrents lumineux, de formes beaucoup plus belles que celles qui encadraient ce vent de pour toute la galette qui pue. Je disais aux amis, à nous de rire, à nous d'ec-rire.
La rire est une forme de résistance, de survie, un moyen de rassembler ses forces.
Il ne se cache pas ce rire. Il dit l'amusement aux multiples nuances, foison d'ironie, d'hilarité, de colère, de moquerie de moi-même et de toi, l'irruption, la sortie, l'excès, j'en ai par-dessus la tête, j'ai des langues par-dessus la tête.
Elle est couverte de mon féminisme comme d'une éjaculation fine, un océan de paillettes politiques.
Bravo.
Et donc, en gros, quand je lis ça, j'aime bien que les personnes ne sachent pas, en fait, en avance qui a fait quoi.
Ouais, c'est vrai, je l'ai annoncé avant et en fait, ça aurait été mieux de garder la surprise, ouais.
Ouais, non, mais ça va. Mais ce qui m'avait vraiment étonnée et la raison pour laquelle je voulais faire ce collage, c'est parce que je trouve que les deux voix parlent souvent de la même chose et que les deux croisent très bien ensemble. Donc surtout si tu ne connais pas qui part de quel côté, on voit que dans les deux voix il y a une motivation partagée de éclater le genre.
Et ok, moi ça me convainc sincèrement, ça m'a beaucoup convaincue ce collage parce que c'est vrai, on trouve plein de croisements en termes. Moi j'ai trouvé, parce que je travaille sur Genet, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de croisements entre l'écriture de Sixou et de Jean Genet, mais bon, ça c'est annexe. Mais sinon, oui, en fait, elles ont des écritures qui sont pas académiques en fait, et elles, comme là, c'est des objets entre des théories, des textes, c'est pas vraiment de la théorie, c'est au-delà de ça, c'est une expérimentation d'écriture. Et je trouve qu'il y a déjà cette forme qui est partagée, un rapport à l'écriture qui peut se recouper, je trouve, entre Preciado et Sixou, des écritures assez expérimentales en somme.
Oui, oui, bien sûr, sur Preciado, surtout parce que c'est un style auto-pornographique, auto-théorique, parfois très poétique aussi. Mais aussi, une chose, c'est chez Sixou, c'est quoi le mot, que beaucoup de gens n'aiment pas exactement chez elle, c'est exactement son conception ou ce qu'on pense d'être sa conception de la différence sexuelle. Donc, mais je pense que dans son écriture, ce qu'elle appelle la différence sexuelle, c'est très proche de ce que Preciado décrit comme des technologies pharmacopornographiques du genre. C'est-à-dire, c'est une façon de faire du corps quelque chose qui peut éclater la normativité, une technologie toute comme les hormones ou les textes ou les médias, la pornographie, qui peut créer d'autres façons d'exprimer le genre et le corps. Mais le malentendu souvent chez Sixou, c'est que sa différence sexuelle, c'est quelque chose de binaire, encore qu'on retourne à cette idée des organes biologiques qui sont divisés en deux côtés. Et du coup, chez elle, je trouve, c'est plutôt comme on trouve chez Deleuze, Gilles Deleuze et Félix Guattari, c'est une façon théorique de parler d'un endroit en mouvement. Donc c'est un petit peu vague ça, mais c'est une façon de parler d'un concept, un croisement de corps et société, donc de ce que tu es, de ce que tu sens et de ce que tu reçois en tant qu'information. C'est une façon de croiser tout là et de parler d'exactement cet endroit où le corps et l'environnement s'entrecroisent.
C'est intéressant que tu parles de binarité parce que précisément, en gros, Est-ce que un des croisements qu'il pourrait y avoir entre Preciado Queer, Hélène Cixous, différentialiste, que sais-je, ça serait précisément la question de la binarité, de la non-binarité, qui est au cœur de l'épistémologie queer et des politiques queer. Comment expliquer d'ailleurs la binarité, le terme binarité, et en quoi, par exemple, Cixous n'est pas binaire. Preciado, on voit plus en quoi elle est pas binaire, mais est-ce que Cixous, vas-y Zap.
Oui, j'allais justement poser la question, vu que j'ai pas lu Cixous, comment on peut faire une théorie de la différence sexuelle sans entrer dans le binaire finalement?
Oui, c'est une bonne question. Mais avec Cixous, d'ailleurs, elle était très proche de Derrida, surtout donc Jacques Derrida, qui a beaucoup parlé de cette question de binarité et de comment est-ce qu'on peut sortir. Donc binarité, c'est-à-dire que les choses sont divisées en deux.
Oui, je pense que c'est une bonne un bon résumé. Ouais, c'est-à-dire que tout l'ensemble.
En l'occurrence.
Ouais. Ouais.
En l'occurrence, homme-femme, que ce soit d'un point de vue biologique ou de genre.
Oui, et donc une idée politique qui vient de ça, c'est que les hiérarchies se construisent par rapport, se construisent de ces binarités. Donc parce qu'il y a deux groupes, hommes-femmes, il y a oppression de l'une par l'autre. Mm-hmm. Et dans une théorie dialectique, ou on peut dire matérialiste, il y a deux côtés et les deux côtés vont se...
Lutte des classes.
Oui, c'est une lutte des classes. Ouais. Et puis, on va passer à une troisième catégorie dans l'avenir. Donc, chez Cixous, d'ailleurs, une chose qui essaie d'être hors cette binarité, c'est qu'elle a vraiment fait une pensée non matérialiste, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas en termes de lutte entre deux choses, de le rapprochement de deux choses qui sont en opposition, mais de mutation. Ce qu'on voit dans le pensée queer en termes de subversion. Donc on a cette idée que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui est en opposition binaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui... Il y a une personne qui est plus forte que l'autre et les deux vont lutter. C'est plutôt pour dire que le pouvoir, c'est quelque chose de circulaire. Il s'exerce de plusieurs endroits et pas juste deux. Ou pas de façon monolithique, pas de façon... unidirectionnel, on peut dire.
Ouais, en pensant beaucoup avec Foucault, d'ailleurs.
Oui, exactement. La pensée de Cixous, c'est exactement dans cette même ligne-là. C'est contre cette idée d'opposition et que, pour nous, la résistance politique, c'est plutôt dans la subversion, la mutation des rapports qu'on a, des genres qu'on a.
Ouais, je pense que c'est une très bonne... c'est assez convaincant, encore une fois, puisque d'une certaine manière, comme tu dis, en fait, ça correspond. On peut voir pas mal de croisements avec le queer par rapport aux notions de pouvoir, un pouvoir qui n'est pas un pouvoir extérieur au corps, mais un pouvoir qui nous traverse toujours, qui traverse les corps, oui. Nos subjectivités. Donc les subjectivités sont déjà traversées par le pouvoir. Bon, peut-être que Cixous écrirait pas en ces termes, mais en tout cas, elle se rapproche peut-être de ces conceptions de pouvoir qui, pour le coup, ne sont pas partagées par des féministes matérialistes à la française, type Christine Delphi. On n'a pas de binarité parce que, alors peut-être que d'une certaine manière, le sujet femme cixouien, s'il y en a, je sais pas, tu me diras, mais si c'est un sujet femme, c'est d'abord un sujet minoritaire peut-être. C'est-à-dire que ce qui compte, je sais pas, c'est une question, hein, mais l'important c'est que est-ce que peut-être, d'une certaine manière, on pourrait le déporter, ce sujet non binaire, vers le minoritaire, vers la marge, sans qu'il soit genré et qu'il soit si homogène en termes identitaires.
Oui, c'est précisément ça que je pense qu'on doit entendre quand on entend le féminin, de l'écriture féminine chez Cixous. C'est plutôt pour parler d'une identité qui est hors le neutre, ce qui est pensé comme neutre dans toutes les philosophies occidentales, politiques. Donc, chez Cixous, oui, le féminin, c'est exactement ça, c'est d'être hors le normatif. D'être hors la philosophie qu'on a déjà, c'est une façon de sortir des philosophies, on peut dire patriarcales, même si ce mot n'est pas trop queer. Mais
oui, donc parler d'écriture féminine, c'est en opposition à la pensée universaliste qui prend comme comme neutre le sujet masculin finalement.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas approcher à Sixou. C'est exactement à cause de ces termes-là, féminine et aussi différence sexuelle. Et je dois dire que pour moi aussi, j'avais la même réaction totalement. C'était quelque chose que je ne voulais pas du tout approcher. Mais puis, dans ces recherches, de voir où la théorie queer, dans sa version française, a fait des limites très fortes. Je voulais interroger ces limites et j'ai vu que c'était par là qu'il y avait une limite. Mais aussi avec la non-binarité de Sixou, je voulais dire un croisement avec Preciado, c'est qu'elle a vraiment une pensée que Preciado appelle et que d'autres gens ont appelé frontalière, donc c'est-à-dire entre des endroits, une pensée du liminal, de l'espace entre des autres espaces. Donc Sixou, elle a écrit...
Des bords, de la faille, de la limite.
Oui, exactement, exactement. Donc elle a écrit entre France et Algérie. On peut trouver dans ses travaux des taux versions d'une pensée décoloniale. Et donc c'est aussi un approchement qu'on trouve avec la théorie queer. C'est exactement cette côté décolonial, essayer de penser entre espaces et comment le pouvoir fonctionne, de façon mondiale plutôt que locale.
Je vous propose de faire une pause et on revient tout de suite après, si ça vous va. On va écouter Métronymie et une chanson de leur dernier album qui s'appelle Love Letters, et donc cette chanson donc, qui est sortie en 2014. Et donc cette chanson s'appelle I'm Aquarius.
Great. Just one fight and just one anniversary. So I never thought you'd be the one to up and leave. You said our love was from the stars. But I never paid attention to my charts. Now I see how quick you must want to forget. Cause you left the ring, I bought you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them. And I can take the ring back where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it. Cause you're a novice and I'm a tourist. And I'm not gonna say, I'm not gonna do. Yeah, I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it. Cause you're a Taurus, I'm a Prius. I'm not gonna say, I'm not gonna. Never thought about it sentimentally. Never saw just how much you thought I meant to me. Never learned about it at university. Never thought about it cause you're the first to see. And I'm aware of the procedure. It's me that leaves her. I guess I'm finished up, it's time to move on. I'm taking the ring back to where I got it from. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it. Cause you're a novice, I'm a tourist. I'm gonna say, I'm not gonna do. I can love it up, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it. Cause you're a novice and I'm a tourist. We've had problems, but notorious for them. It's what your friends said now. You're inside your love. I've seen our stars, but there's nothing aligning with us. Cause I'm Aquarius. Yeah, I'm Aquarius. 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 Shoot.
Voilà, on est de retour, c'était donc Métronomie.
Métronomie, pardon, je me trompe à chaque fois.
Métronomie, pardon, ok, j'ai fait la même erreur. Donc, ce dont on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, juste avant, qu'on n'a pas assez explicité, c'était essayer de faire un croisement entre Preciado et Cixous, ce qui est finalement Béatrice Preciado et Hélène Cixous, entre le queer et la différence sexuelle, pour essayer de trouver des concepts, les concepts que toi tu retiens, qui puissent articuler ces deux corps, ces deux subjectivités. Est-ce que tu retiens notamment quelques concepts qui explicitent les liens que tu fais entre elles deux, entre
oui.
deux.
Oui, merci. Donc, notamment d'abord, c'est la façon dans les deux de chercher une façon de, je veux dire, éclater la subjectivité ou de faire des mutations du genre. Donc, c'est ça qui est très fort chez Preciado, qui m'avait attirée. Et c'est aussi ça que j'ai trouvé par hasard chez Cixous. C'est exactement ces pistes de mutation, on peut dire. Et donc, un terme que j'aime utiliser pour parler de ça, c'est les technologies du genre. Donc, Preciado, dans son concept de pharmacopornographique, c'est comment tous les hormones et les textes et les images sont des technologies de créer notre subjectivité, mais de manière cruciale, aussi de déconstruire les genres ou les subjectivités qu'on a. Donc, même si on est construit avec ces idées, on peut aussi les utiliser comme des façons de créer des nouvelles genres queer.
Peut-être un exemple pour arriver à imaginer le truc que Preciado donne, un exemple de construction de subjectivité. J'en ai un en tête, si peut-être... Par exemple, je sais pas, je me souviens du Viagra, son truc sur le Viagra, où elle dit que ça, le Viagra, ça construit la masculinité hétérosexuelle comme une masculinité infaillible et, comme on dit, performante, enfin, qui soit toujours performante, en fait. L'hétérosexualité masculine doit être toujours performante et impénétrable, également. Donc, et donc ça, c'est construit également de façon hormonale. Voilà, c'était pour donner un exemple pour qu'on, peut-être, on perçoive un peu ce que ça recoupe.
Ouais, un autre exemple qui est facile aussi, c'est le pilule. ça se passe en français, la pilule.
Ouais, c'est la pilule, ouais.
La pilule, exactement. Donc, le fait que c'est censé ou c'est pensé comme quelque chose d'assez normal, c'est pas censé avoir un régime hormonal hétéronormatif là-dedans. Mais bien sûr, c'est toute une partie des hormones qui sont associées à une idée de c'est quoi la meuf ou la mec parfaite, c'est quoi le chimie d'une personne normale. Donc évidemment, l'estrogène dans la pilule, ça fait aussi partie de la régulation même des personnes qui ne se pensent pas en tant que queer souvent. Donc, ouais, en gros, les technologies hormonales sont partout. Mais aussi la pornographie, ça change de façon dont on regarde nos sexualités. Le maquillage, c'est aussi une sorte de technologie de comment on exprime un genre ou on essaie de déconstruire un genre qu'on a, par exemple. Ce que j'aime dans cette croisement Preciado-Cixous, c'est que je pense que l'écriture féminine, comme une sorte de technologie d'exprimer une autre subjectivité, peut être une technologie du genre, c'est-à-dire une technologie qui vise à créer d'autres corps, d'autres expériences corporelles possibles.
En fait, dans l'expression technologie de genre, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée qu'il y a donc technos et que ça s'inscrit aussi dans la déconstruction de la binarité nature-culture, nature-technologie. C'est-à-dire que c'est l'idée que, que le genre est le produit de la technologie, mais pas dans l'idée qu'il y aurait une nature qui lui précéderait. Je pense qu'il y a de ça aussi chez Cixous,
ouais,
à mon avis.
Oui, exactement. Il y a aussi un côté cyborg chez les deux, chez Cixous et chez Preciado. Donc, cyborg, c'est-à-dire à la fois biologique et technologique. On n'est pas parfaitement ni l'un ni l'autre. Et donc, par exemple, tout ce qu'on fait dans l'Internet, c'est médiatisé, c'est sous un filtre technologique. Donc, on peut dire que la façon dont on regarde l'information, par exemple, maintenant, c'est de façon cyborg.
Oui, puis c'est aussi peut-être une façon de dire que les choses, c'est pas parce que c'est de la technologie que ça nous traverse pas et que ça construit pas des corps, en fait. C'est pas parce que c'est de la technologie que ça va s'ajouter sur nos corps et qu'on pourra leur tirer après comme un vêtement. Ça construit complètement, ça nous traverse nos désirs, nos corps, ça devient de la matière, en fait.
Pas donner corps un point de vue, une concentration d'affect, de construction, de comportement social qu'on voit comme naturel et comme cohérente et comme quelque chose de solide, de corporel.
Tout à fait.
Ouais, donc pour moi, c'est toujours la grande question de pourquoi est-ce qu'on veut faire ce type de travail? Pourquoi faire une lecture queer du féminisme essentialiste?
Ouais, en fait, peut-être une des choses qu'on pourrait ajouter, c'est pourquoi, enfin, comment tu légitimerais le fait d'aller piocher? Ça, c'était plus ta question, Zav, donc vas-y, je te laisse y aller.
Oui, voilà, alors pourquoi finalement, il y a plusieurs théories queer, pourquoi aller piocher des éléments queerisables, je sais pas comment les marquer, pourquoi aller piocher des éléments qui a priori seraient, s'inscriraient dans une démarche plutôt essentialiste, pour les inscrire dans une démarche queer, finalement? Est-ce que c'est parce qu'il manque un bagage, ou est-ce que...
Oui, pour voilà. moi, c'est parce que je pense qu'on voit en France, à l'instant, une fermeture de c'est quoi le queer. Il y a des discours très forts de non, le queer c'est ça, c'est plutôt ça, tu l'avais pas bien fait. Et beaucoup de ça a à faire avec cette histoire des origines. Donc, le queer, ce que ça est, c'est surtout pas essentialiste. Et pour moi, le fermeture du queer, c'est-à-dire de choses que, premièrement, ça veut pas, on peut pas aller plus loin, alors. ça ferme des voies qui pourront être possibles. Aussi, pour moi, ça c'est très lié à un côté normatif qu'on voit dans le queer. Le queer peut devenir très facilement ce que c'était censé lutter contre, c'est-à-dire un politique LGBT qui parle que des plus visibles. Donc, pour moi, c'était vraiment une question de regarder qu'est-ce qui est invisibilisé dans le queer, dans ce queer qu'on voit maintenant en France, dans le contexte français. Qui est-ce qu'on invisibilise, c'est ça. Et est-ce qu'on peut trouver des endroits de occultation où on a fait invisible des gens pour assurer que le queer arrête de devenir plus normatif et de continuer à invisibiliser les gens. Et ouais, donc pour moi, c'était aussi une tentative de lutter contre ce que je vois de la normativisation du queer dans le processus de sa disciplinarisation au sein de l'université française, on peut dire.
Aussi, ça doit être la troisième ou quatrième fois que j'en parle dans la journée, donc je suis désolée pour vous, mais un des choses qui m'a frappée, que je trouve particulière, une des choses qui m'a frappée, que tu as relevé, Claire, et puis que Angelica Statopoulos, qui était à la journée d'études, avait noté et relevé également, c'est que on ne cesse de piocher dans le corpus, la triade Foucault, Deleuze, Derrida, sans aucun problème, alors qu'il y a des choses problématiques dans leur travail, je veux dire, il y en a dans tous les travaux. On s'en sert comme fondement épistémologique et théorique et critique. Et comme par hasard, Hélène Cixous, Iri Garay, les femmes disparaissent et partent à la trappe. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un truc là-dedans, à mon avis. Bon, bref, ça c'est juste c'est juste pour l'anecdote et aussi pour avoir en tête que peut-être qu'on reproduit les mécanismes à notre insu, pas consciemment. Et parce que en fait ces corps Derrida, Deleuze et Foucault c'est des corps qui passent pour neutres et qui précisément sont oubliés en tant que corps, donc du coup ils nous embarrassent pas trop, quoi.
Oui, non, exactement. On lit Derrida, par exemple, comme si il n'avait pas un corps. Et bien sûr, son corps est là. Ouais. C'est juste.
J'aurais peut-être pas dû citer Foucault dans le lot parce que.
Oui, mais quand même, un peu lui inclure, je pense.
Oui.
dans ce trajet-là. Mais oui, donc, pour moi, je cherchais une version de queer, féminité non binaire. Et je voulais aussi un petit peu lutter contre cette fait que on trouve. Je pense que c'est d'ailleurs très important de prendre des choses qui peuvent te servir dans la théorie, mais ça m'avait agacé un peu qu'on prend des choses beaucoup chez certains auteurs et on ne touche pas. C'est comme s'il n'y a rien d'utile du tout dans d'autres auteurs juste parce que elle parle un peu du corps féminin.
Ouais. Bon, bah, je pense que de toute façon, on va arriver à la fin de cette émission très bientôt. On peut peut-être juste rappeler à la fois ton sujet de recherche, puisque peut-être qu'il te conduira quelque part dans d'autres territoires encore. En fait, tu travailles donc c'est Claire Finch. Tu es étudiante en genre à Paris 8, et donc tu travailles sur la réception de la théorie queer en France, c'est-à-dire comment le queer a été reçu et ensuite diffusé, sous quelle forme, sous quel territoire de pensée, quel territoire politique il a construit, ont été construits, et puis tout fait une historique, une épistémologie de tout ça, un gros travail de traduction aussi que tu fais, je pense.
Oui, bien sûr, tous les textes qui sont impliqués dans cette histoire sont écrits en gros entre le français et un contexte anglophone, les textes que moi j'étudie. Donc ça, c'est d'ailleurs aussi une question qui est très importante pour moi, c'est d'essayer de ne pas attacher une identité nationaliste à ce que je fais, de ne pas attacher trop une seule langue. Donc j'aime bien l'idée de travailler entre les langues. Pour moi, c'est aussi une façon d'éclater un petit peu une solidité de ce que j'ai fait.
Linguistique. Oui, c'est tout à fait. C'est très intéressant et je pense que c'est un truc queer aussi. on arrive à la fin. On se retrouve dans 15 jours. On se retrouve plus dans 15 jours. Ouais. On va vous laisser pour... là, c'est la fin de la saison. C'est la dernière émission de la saison.
On se retrouve en septembre.
Je serai plus là, en fait, probablement.
Plus dans les studios,
en tout cas. Mais bon, vous écouterez probablement ma voix, quand même, de temps en temps.
Zut alors.
Et du coup, il y aura Aza Bienel.
Voilà. Bon, ben, on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances à tout le monde. Les UEH, c'est ce mois-ci, si vous voulez y aller. C'est un peu tard pour s'inscrire, mais au cas où, inscrivez-vous l'année prochaine. Et puis, on va vous passer notre chanson de fin d'émission, comme d'habitude. The Knife, Pass This On.